Radio 3.6.
La radio des 3e 6 du collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux.
Ici pour vous parler des médias et de l'opinion publique.
Radio 3.6.
Bonjour, ici Radio 3.6. Il est 14h et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une série de reportages sur le thème médias et opinion publique.
La première partie sera présentée par Eléa
et Natina,
tandis que la deuxième sera présentée par Jeanne et Lola.
Au sommaire de la première partie, une interview sur le sport et les médias, une présentation des dangers des réseaux sociaux, une analyse des théories du complot.
Radio 3.6.
Nous commençons tout de suite avec une interview qui porte sur la relation entre sport et médias avec nos reporters Sialé, Romain et Moussa.
Après une brève présentation, ils nous feront écouter leur interview de Nicolas Morin, journaliste sportif chez France 3 Aquitaine.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Le vendredi 11 décembre, M. Nicolas Morin nous a présenté son métier, toutes les connaissances qu'il a acquises au long de sa carrière ainsi que son expérience dans le monde professionnel.
Puis nous avons pu lui poser quelques questions par rapport à son métier de journaliste sportif. Ensuite, nous avons interviewé M. Morin à l'aide d'outils numériques que nous avions appris à utiliser avec notre professeur de technologie.
Est-ce que vous faites du sport ?
Oui, on fait du foot à la section foot du collège.
C'est un sport très médiatisé. Nicolas Morin va sûrement nous en parler.
Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, pour faire plein de rencontres, pour faire la connaissance de plein de gens différents, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans la chanson même, des acteurs de cinéma, pouvoir rencontrer des gens que je ne pourrais pas rencontrer si je ne faisais pas ce métier. Et après, pour faire des voyages, découvrir plein de choses pour ma culture personnelle et tout ça.
Quelle est la plus belle expérience que vous avez vécue en tant que journaliste sportif ?
Les Girondins de Bordeaux ont été champions de France la dernière fois, ça date, on était à peine nés, en 2009. Un match de foot à Caen, c'était à Caen, il fallait qu'ils gagnent absolument, parce que Marseille devait gagner aussi, qui était juste derrière. Les Bordeaux les gagnent, donc nous on va là-bas, et à la fin du match, le président des Girondins qui nous laisse rentrer sur le terrain, qui nous laisse filmer les supporters avec les joueurs, la joie générale, alors que d'habitude, comme on n'avait pas les droits des championnats de France, c'était quand même plus, on ne pouvait pas accéder au terrain. Là, il nous a laissé faire, après il nous a laissé aussi rentrer dans les vestiaires. On a pu voir la fête vraiment aussitôt après le tir final, deux joueurs qui gagnent un titre assez prestigieux. Donc ça, c'était assez génial. On était rentré en voiture après à Paris, à Roissy, à l'aéroport. On avait dormi dans la voiture quelques heures. Et le lendemain, on avait travaillé à Bordeaux toute la journée avec la remise du trophée aux supporters des Girondins. Enfin, en tout cas, le trophée qui était brandi devant les supporters Place des Quinconces à Bordeaux.
Y a-t-il beaucoup de fake news qui tournent autour du milieu du sport dans les médias ?
Il peut y en avoir, notamment en période de transfert, foot notamment. En rugby, c'est un peu moins le cas parce que c'est moins populaire, on en parle moins. Enfin, c'est pas vraiment des fake news parce que c'est pas volontairement pour nuire. C'est des rumeurs sur un joueur qui peut être contacté par un club, son agent s'en sert pour faire monter les enchères, pour qu'il soit payé plus cher, enfin, etc., etc. Mais c'est facile à démontrer, et c'est facile de démonter surtout une fake news pour les journalistes, parce qu'il suffit de contacter les dirigeants, le joueur, son agent, et on arrive vite à trouver la solution et à décortiquer cette qui est une rumeur.
Comment se déroule une interview dans le milieu du sport ?
Alors, soit il y a l'interview préparée, on prend rendez-vous avant avec les attachés de presse des clubs quand il s'agit de sport collectif ou avec l'agent ou avec le représentant de la sportive ou du sportif. Quand il s'agit de sport individuel, on fait des demandes assez longtemps à l'avance. Ça, c'est et après, l'interview se fait comme ça, là, en tête à tête, pendant 20 minutes. Si on dit que c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Voilà, c'est qu'on mettra. Et après, il y a les conférences de presse d'avant-compétition, d'avant-match où là, tous les journalistes ont le même endroit dans une salle et ne choisissent pas les interlocuteurs. Donc, il y a un entraîneur ou un joueur qui vient. Et après, les compétitions, c'est pareil.
Peut-on se fier à tous les reportages sur le sport ?
Oui, je ne vais pas te dire le contraire, hein. Mais oui, en général, oui. Tout ce qui est compte rendu de matchs, de compétition, bah oui, forcément, parce que tout le monde a vu les mêmes résultats, donc voilà, tout le monde a vu les mêmes images, donc oui. Et les enquêtes dans le milieu du sport qui concernent la politique, la corruption, le dopage, les minorités, qu'elles soient sexuelles ou ethniques, qui sont discriminées, oui, parce que c'est des véritables enquêtes. Les journalistes ont travaillé, ils ont pris des renseignements, ils ont travaillé leur sujet avant. Ils font attention aux interviews, attention à ce qu'ils disent. Ils vérifient les choses plusieurs fois avant de les publier et de les raconter, donc oui.
Merci d'avoir écouté notre interview.
Merci beaucoup pour cette enrichissante interview.
C'est effectivement un métier intéressant que vous nous avez fait découvrir.
Radio 3.6.
La radio des 3e 6 du collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux.
Ici pour vous parler des médias et de l'opinion publique.
Radio 3.6.
Nous restons sur le thème des médias, mais sur ces dangers cette fois-ci.
Nous accueillons Yeba, Margot, Louise et Alexia, qui ont rencontré Florence Louis, philosophe à l'association Philosphère.
Nous avons rencontré Florence Louis, une philosophe de l'association Philosphère.
Elle nous a parlé des dangers sur les réseaux sociaux et Internet, comme le réseau social Instagram ou les cookies qui utilisent nos données sur Internet.
Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont uniquement mauvais ?
Non, ils ne sont pas foncièrement mauvais, mais il faut faire très attention lorsque nous les utilisons.
J'espère que cette interview nous permettra de savoir à partir de quand les réseaux sociaux peuvent être nocifs.
Est-ce que les dangers d'Internet sont uniquement sur les réseaux sociaux ?
Alors non, Internet c'est un gigantesque système qui comprend effectivement les réseaux sociaux, mais aussi tous les sites Internet, et puis toute une face complètement immergée où ce sont des robots qui travaillent pour l'humanité, ou avec l'humanité, ou contre l'humanité.
C'est vrai qu'il existe plusieurs dangers sur Internet et les réseaux sociaux, dont le harcèlement.
Quelles sont les principales victimes du harcèlement sur les réseaux sociaux ?
Les personnes les plus vulnérables, je pense. C'est-à-dire les personnes qu'on discrimine. Mais par contre, potentiellement, tout le monde. Puisque c'est la foule qui peut vous prendre, on appelle ça un bouc émissaire. Mais cette personne peut être un ministre.
Le harcèlement se fait souvent à cause de nos informations privées.
Que font les sites et les réseaux sociaux de nos informations privées ?
Quand vous allez sur un site internet et sur un réseau social, vous acceptez des conditions d'utilisation. Alors d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Je vous invite, quand vous voyez accepter les cookies, vous pouvez tout faire défiler et en bas, il y a souvent une case « tout refuser ». Bon, bah, vous refusez tout. Déjà, vous aurez moins de cookies qui seront... dans votre ordinateur et qui, effectivement, vont capter vos données, vont capter, par exemple, toute la navigation que vous allez faire. Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en fait, ça veut dire que collectivement, on donne aux entreprises, parce qu'Internet, c'est aussi surtout des entreprises et des multinationales, donc on donne à ces entreprises toute la connaissance qui va leur permettre de nous téléguider, hein, de savoir quels produits on préfère acheter, à quel moment, quels sont nos comportements. Donc on arrive à une humanité qui est guidée par des machines.
Merci d'avoir écouté cette interview sur les dangers d'Internet avec la collaboration de Madame Louis.
Merci beaucoup pour ces reportages intéressants.
Oui, j'espère qu'il empêchera certains d'abuser des réseaux sociaux et d'Internet en général.
Radio 3.6.
La radio des 3e 6 du collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux.
Ici pour vous parler des médias et de l'opinion publique.
Radio 3.6.
Toujours sur les déviances d'Internet, nous écouterons une analyse des théories du complot véhiculées sur Internet et en particulier sur YouTube.
Elle sera présentée par Juliette, Gwenaëlle et Elson, sous forme de l'interview de deux intervenantes de l'association SOS Racisme.
Le 1er mars 2021, nous avons rencontré deux jeunes filles de l'association SOS Racisme. Elles nous ont présenté deux vidéos afin de comprendre qu'est-ce que la théorie du complot et nous expliquer comment on l'a construit.
Un exemple concret et efficace, les chats et leur comportement. La vidéo a servi à nous poser des questions sur l'animal et faire des recherches et déterminer la vérité. En partant d'informations vraies qui ont été détournées par des phrases chocs et mensongères, la vidéo montre que l'on peut tromper énormément de personnes et générer une réaction négative par rapport au chat. Cette vidéo a été tournée par de simples lycéens.
Bonjour. Est-ce que toutes les théories d'Internet sont fausses ?
La plupart le sont.
Ce reportage complet va nous apprendre à réfléchir à deux fois la prochaine fois que nous lirons une information sur Internet.
Qu'est-ce qu'une théorie du complot ?
Une théorie du complot, en fait, c'est une idée selon laquelle on veut faire croire, que l'on veut diffuser au plus du plus grand nombre pour atteindre, nuire à un groupe de personnes ou à une institution.
Pourquoi les théories du complot se multiplient avec Internet ?
On a, je pense, une facilité à avoir accès aux informations grâce aux réseaux sociaux, au fait qu'on va être très souvent un petit peu submergé par des informations où de plus en plus de personnes vont pouvoir être générateurs d'informations. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça se multiplie énormément, en tout cas de nos jours.
Quel lien entre terroriste, racisme et théorie du complot?
Alors, il y a un lien entre le terrorisme et le racisme. Le lien entre terrorisme et le racisme, d'une part, c'est que les terroristes, en fait, sont des groupes de personnes qui veulent nuire à une autre catégorie de personnes. Donc, en fait, ils visent un groupe de personnes qui est différent d'eux et auquel ils souhaitent nuire. Donc, en fait, les terroristes, par définition, sont racistes puisqu'ils commettent des actes envers une catégorie de population qu'ils choisissent. Et comme on disait, les théories du complot, en fait, elles visent à nuire à un groupe de personnes ou à une catégorie de personnes ou des institutions. Mais en faisant ça, ce qu'elles font, c'est de l'incitation à la haine. C'est-à-dire qu'elles choisissent d'appeler les gens à douter, à avoir peur et à réagir, souvent violemment, envers une catégorie de personnes ou population. Et ça, ça constitue aussi le racisme.
En fait, toutes ces théories-là, etc., et ces événements-là perpétrés par des terroristes vont justement créer de l'amalgame, créer des stigmatisations contre du coup un groupe de personnes. Et en plus de ça, je pense que le but aussi de ces groupes-là, en tout cas, c'est aussi de créer une sorte de méfiance, une sorte de haine envers justement les institutions de l'État aussi. Donc en soi, remettre en cause toute la construction qu'on a pu avoir autour de ce modèle républicain, notre devise, fraternité, liberté, égalité, etc.
Merci d'avoir écouté notre interview.
Merci pour cette analyse pertinente.
Je pense que nous prendrons dorénavant plus le temps d'analyser les informations trouvées sur Internet. Il est 14h12 et c'est déjà la fin de la première partie de notre émission.
Nous allons donc laisser place à Jeanne et Lola.
Mais d'abord, écoutons Departure de Capachen. About 3 days and 200,000 miles into the flight, Mission Control did miss the significance of the cryptic message from the astronauts. And any idea where the mercury is picked up?
Nous sommes Lola et Jeanne, toujours en 3ème 6. En bref, les sujets abordés de cette deuxième partie sont les fake news, le portrait d'une journaliste et pour finir, l'image de soi et les réseaux sociaux.
Radio 3.6.
Nous accueillons Swanny, Aminata et Iris sur le plateau. Début mai, elles ont écrit et réalisé une interview avec Lucia Kanguala, webmaster d'origine péruvienne. Bonjour.
Bonjour.
Vendredi dernier, le 7 mai 2021, nous avons rencontré Lucia Kanguala, une webmaster péruvienne qui est venue en France il y a un an et demi pour des raisons professionnelles.
Le métier de webmaster consiste à créer des identités visuelles pour différentes marques. Plus tard, nous l'avons interrogé en espagnol sur sa vie au Pérou et les raisons qui l'ont mené à venir en France.
¿Desde cuándo está usted en Francia?
Hace un año y medio.
¿Por qué eligió venir aquí?
Yo no lo elegí, vine por obligación.
¿Cuáles son los estudios que hizo?
Mi primera carrera es ingeniería informática y luego diseñadora gráfica.
¿Por qué eligió este trabajo?
Cuando yo comencé a estudiar ingeniería informática, me di cuenta que me gustaba mucho dibujar y crear las imágenes. Y luego, con mi trabajo de ingeniería informática, me pagué los estudios de grafismo.
¿Cómo y cuándo aprendió el francés?
Lo aprendí cuando llegué aquí, hace un año y medio. Luego, con el COVID, paré. Se detuvo mi curso de francés y aprendo con una profesora de francés todos los viernes.
¿Regresa usted regularmente a Perú?
No, por el COVID.
¿Dónde nació?
En Lima, Perú.
¿En qué consiste tu trabajo?
Actualmente hago diseño gráfico para empresas. Hago concepción de diseño y de páginas webs para el Perú y un poquito para Francia.
Gracias.
Con gusto.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Radio 3.6.
La radio des 3e 6 du collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux.
Ici pour vous parler des médias et de l'opinion publique.
Radio 3.6.
Nous accueillons à présent le groupe de Mathieu, Tarek, Mathéo et Hilal avec le portrait de la journaliste Marie-Capucine Gis.
Bonjour.
Bonjour. Le lundi 11 janvier, nous avons rencontré Marie-Capucine Gis. Nous lui avons posé des questions sur son parcours et des différents problèmes qu'elle pouvait rencontrer dans son travail.
Madame Gis est journaliste à France Culture. Elle travaille dans la presse écrite pour l'Infirmier Magazine. Elle nous explique le parcours qu'elle a suivi dans ses projets comme la radio.
Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases ?
Oui, alors en quelques phrases, je m'appelle Marie-Capucine Dis, je suis journaliste. J'ai beaucoup travaillé en radio pour France Culture. J'ai fait beaucoup de reportages en France et à l'étranger, plutôt des sujets de société. Et puis après, j'ai travaillé pour la presse spécialisée. Actuellement, je travaille dans le domaine de la presse écrite spécialisée professionnelle, pour un magazine infirmier.
Avez-vous fait de la radio ?
Oui, j'ai fait de la radio. J'ai travaillé 12 ans environ pour France Culture. J'ai travaillé pour des émissions très différentes. Je faisais des reportages, de l'antenne ou des documentaires, donc des formats plus longs.
Qu'est-ce que le nursing narrative ?
Alors, le nursing narrative, c'est une question tout à fait innovante. Le nursing narrative, c'est quelque chose qui n'existe pas encore tout à fait. C'est une nouvelle discipline qui permet aux infirmières de se raconter pour faire évoluer leur discipline scientifique.
Avez-vous des collaborateurs étrangers ?
Alors moi, j'ai pas de collaborateurs étrangers, mais par exemple, quand je travaillais pour certaines émissions, on avait des personnes qui partaient plus spécifiquement dans certains endroits, ou même des fois, on avait des correspondants locaux.
Avez-vous déjà été confronté à des fake news ?
Alors, les fake news, c'est plutôt pour les gens qui les entendent, c'est pas pour les gens qui font l'information. C'est de la manipulation. Bah oui, on est tout le temps manipulé, en fait. Les gens, ils veulent vous faire voir les choses comme eux, ils veulent les faire voir, puis ils voudraient que vous fassiez passer l'information comme ça, et le travail du journaliste. Heureusement qu'il y a toujours des informations qui ne sont pas fausses, puisque notre travail, c'est de vérifier les informations, de les confronter pour nous rapprocher de la vérité.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Radio 3.6.
La radio des 3e 6 du collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux.
Ici pour vous parler des médias et de l'opinion publique.
Radio 3.6.
Pour Pour conclure, une analyse de l'image de soi et les réseaux sociaux, présentée par Madame Kourou de l'association Les Grands Espaces. Ce reportage va vous être présenté par Francisco, Joachim, Vigo et Pierre.
Bonjour.
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 Nous avons rencontré Madame Kourou de l'association Les Grands Espaces, qui fait de l'éducation à l'image, principalement dans le cinéma.
Après son intervention devant notre classe, nous lui avons posé quelques questions sur les réseaux sociaux et l'image de soi dans une interview que nous avons enregistrée.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Alors moi, je fais de l'éducation à l'image, c'est-à-dire que j'essaye de qu'on comprenne avec des élèves, avec du public, comment fonctionne une image et un son, et quel effet ça a sur nous, quelle émotion ça provoque, quel sens ça a.
Quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux ?
C'est une manière de communiquer, en fait, qui est géniale. On peut dire des choses qu'on n'aurait pas dit avec des mots, ou pas dit avec en l'écrivant. Vous voyez, avec juste une photo, on peut exprimer quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas forcément exprimer par l'écrit ou par le son. Et ça, je trouve ça super, de pouvoir exprimer autrement, par dos du biais, en fait, les choses, et de pouvoir se parler différemment. Et les inconvénients, il y en a plein. Hein. C'est un endroit aussi où circulent plein de fausses choses. Moi, je trouve que c'est un inconvénient, mais en fait, on peut le tourner en avantage.
Avez-vous des conseils à nous donner pour l'utilisation de nos réseaux sociaux ?
Moi, je pense qu'il faut, jusqu'à un âge, au moins au lycée, voire un peu plus, peut-être, enfin, au moins au lycée, il faut utiliser les réseaux sociaux en privé, parce que, en fait, quand on utilise un réseau social en privé, on sait à peu près qui est-ce qu'on a en face. Si vous diffusez une image dans le monde entier, finalement, les gens qui vont pouvoir venir vous voir par le biais des réseaux sociaux, vous ne pourrez pas avoir de vraie interaction avec eux. Il n'y a que sur les réseaux sociaux que ça va se passer. Et sur les réseaux sociaux, c'est assez, malgré tout, limité. On peut pas parler exactement comme dans la vraie vie. On ne peut pas autant échanger.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci chers auditeurs d'avoir écouté l'émission de radio des 3e 6, enregistrée en direct du collège Aliénor d'Aquitaine à Bordeaux. Nous remercions nos professeurs et M. Bonneau du Clémy de nous avoir accompagnés tout au long du projet.